Alors, mon partage ce matin, ma prédication s'appelle « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Préparez vos cœurs pendant ce témoignage, on va prier, vous allez voir, il y a encore une surprise qui vous attend, ça c'était la première parce que je dis, on n'était pas ensemble. Dieu est bon, Dieu est grand. Nous avons entendu aussi, si tout nous a dit que nous avons beaucoup de difficultés à aller dans les endroits comme les hôtels, et c'est ça, dans les écoles, etc. Dans les prisons, nous avons beaucoup de difficultés. Alors, c'est la France. On dit la liberté, c'est bien, mais laïcité, c'est pas toujours la liberté que nous pensons. Parler de tout, sauf de Dieu, sauf de la foi, sauf de Jésus-Christ. Voilà, c'est un peu ça. Donc, Dieu a des moyens, d'autres moyens pour que sa parole soit annoncée. Amen. Alors, nous allons prendre un texte dans la parole de Dieu. Je ne serai pas long, parce qu'il y en a à la fin, nous allons prier, on va s'attendre à des changements, il y a des surprises, on ne va pas sortir de la même façon que nous sommes entrés dans cette salle. Amen. Ah ben c'est ça, il faut que les choses changent autour de nous, des circonstances, des verrouillages, des blocages par-ci, par-là. Voilà, Dieu est tellement puissant. Je vois tellement des miracles, des belles choses, des interventions de Dieu pendant la semaine et à toute une vie. Mais en même temps, j'attends un peu parce que dire un témoignage, il faut vérifier, il faut attendre un moment pour ne pas dire n'importe quoi, et puis si ce n'est pas vrai. Voilà, donc Dieu est tout puissant. Donc le texte dans le Nouveau Testament, souvent ici dernièrement, on entend des enseignements qui sont donc tirés dans l'Ancien Testament parce que ce sont des exemples. L'Ancien Testament nous parle souvent, c'est des repères aussi. Voilà, ce matin, c'est le Nouveau Testament. Je ne vais même pas ouvrir l'Ancien Testament, donc ça va. Les Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous allons lire le 13, premier verset. Comme Jacques, il regarde déjà là-bas, et il aime bien lire, il va nous aider, donc je te passe, Jacques. Voilà, tu lis pour nous tous le 13, verset, 13, premier verset. Et suivez, donc lis distinctement, voilà, suivez ce texte-là, certains connaissent, bien sûr, mais vous allez voir, on va retirer un enseignement de ce texte qui est tellement profond, très riche. Voilà Jacques, merci.
Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem.
Merci, Jacques. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc, vous voyez dans ce texte, en voyant une belle histoire. Ça s'est passé il y a pratiquement 2000 ans. Donc ici, il est question d'un groupe de ministères. D'accord ? Plusieurs personnes qui se trouvaient donc dans cette ville, là, Antioche. Il y avait là des prophètes, hein, des hommes de Dieu, des docteurs dans la parole de Dieu, ce sont des enseignants, d'accord ? Et puis d'autres. Et la parole de Dieu nous dit que ces personnes étaient là. Le verset 2 nous dit, « Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. » On s'arrête là. « Pendant qu'ils servaient les seigneurs. » Service, servaient. C'est la même chose que ce matin nous allons dire. Nous sommes là et nous offrons à Dieu un culte agréable. Nous sommes là ici, nous servons Dieu. C'est le service. D'accord ? Et en plus, là, c'était le jeûne. Ils ont prié avec quelque chose d'exceptionnel. Peut-être un culte, peut-être une réunion dans la semaine, peut-être une... Voilà. Ils avaient donc besoin d'avoir de direction claire de la parole de Dieu. Ils se sont regroupés ensemble, d'accord ? Et ils priaient, ils jeûnaient, et ils faisaient peut-être comme nous ce matin. Et vous avez vu, à tout moment, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit parle. Alors, est-ce que c'était un monsieur Saint-Esprit qui était assis parmi ces hommes-là ? Est-ce que c'était un monsieur, une dame ou un enfant ? Non. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, il était présent. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un service, il y avait la prière, on jeûnait, on était là. On voulait percer les puissances des ténèbres et quelque part atteindre la présence de Dieu. Et au moment où on est là, dans la prière, dans l'intercession, on consacre un temps, on offre un temps à Dieu, on développe une relation personnelle avec Dieu, une relation intime, une relation intense. Personnel, je souligne, personnel. Et voilà, ce groupe-là était devant Dieu, et tout à coup, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit leur donne des directions. Imaginez-vous que vous avez décidé d'aller cet après-midi à Roubaix parce qu'il y a un anniversaire, il y a un beau gâteau, c'est une belle fête. Et puis le Saint-Esprit va vous dire, cet après-midi, mon ami, je t'envoie à Lens pour, par exemple, prier pour quelqu'un qui est SDF et qui sent en plus mauvais. Ah, ça bouleverse nos habitudes. L'agenda est complètement déboussolé. Vous avez un projet personnel et puis vous avez dit ce matin, Dieu bénis-moi parce que je vais me retrouver là. J'ai besoin aussi de toi. On est de chrétiens très spirituels. Tout à coup, Dieu vous dit, va là-bas. C'est pas là-bas, Dieu vous dit, va là-bas. Ça va, vous me suivez? Bon, j'espère que ça ne vous arrivera pas, mais moi, ça m'arrive une fois de temps en temps. Et ça me coûte, charnellement et humainement parlant. Et quand vous venez ici, puis vous avez préparé une bonne prédication, et puis Dieu vous dit, ce n'est pas cette prédication-là que tu vas prêcher aujourd'hui. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Inutile de vous expliquer. Ah ben, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Il y a les choses surnaturelles. Il y a Dieu qui dépasse aussi notre personnalité, nos projets, nos idées, etc. Est-ce que nous sommes prêts d'accepter aussi? Voilà, je vous lance ce défi parce qu'on s'attend à des grandes choses. Amen. Ça chauffe dernièrement, ça bouge, la jeunesse, ça bouge. Là, je reçois, j'ai les enfants encore à la maison. On m'a dit, oh, on m'a téléphoné, nous voulons aller là et là, nous voulons être avec vous. Ce n'était pas du tout programmé. Alors moi, je dis, ça, c'est un bon problème, ça. Et puis quand un jour, il y a 1000 personnes qui viendront ici, et puis vous allez faire quoi? Ah ben, on va dire aux chrétiens, vous allez prier dans les rues, et puis on va dire, ben, ceux qui viennent pour la première, venez là pour écouter la parole de Dieu. Donc vous voyez, avec Dieu, souvent, on a des surprises. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Donc ils ont mis à part Barnabas et Saul, ce sont deux hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a imposé les mains, on a prié pour eux, d'accord? Ils étaient remplis du Saint-Esprit, et ces hommes-là, ils sont partis, ils ont quitté à cet endroit où ils étaient ensemble, des amis, ça rigolait, ça chauffait, c'était bien. Ah, on buvait le café, il y avait un petit gâteau là. Mettez-moi à part Barnabas et Saul, qui est devenu Paul, hein, d'accord? Et ces deux hommes-là sont partis parce que le Saint-Esprit leur a dit, voilà, vous allez quitter, vous allez partir, je vous ai choisi pour une mission spécifique. Très bien, ils sont partis. Ils se retrouvent dans une autre région, d'accord? Le verset 4 nous dit, Barnabas et Saul, Paul, envoyés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu penses, Julie, si Dieu te dit, va à Paris tout à l'heure? Envoyés par le Saint-Esprit, descendirent dans une autre région, puis sont venus à Chypre. Voilà, et ils prêchent l'Évangile. Je ne sais pas s'ils avaient des Nouveaux Testaments, si tout là, comme ça. Ce n'était pas ça, hein, c'était moins beau. Hein, c'était, voilà, par tous les moyens, aussi avant, par chemin, etc. Donc, vous voyez, ils prêchaient la parole de Dieu, ils rentraient dans les synagogues. Il a affronté les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus. Annoncer la parole de Dieu. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà, il y a une opposition. C'est bien d'annoncer l'Évangile. C'est notre mission. Mais nous avons un ennemi qui fait tout pour nous empêcher d'annoncer la parole de vie. Amen. La parole, c'est la vie. Oh! J'étais mort et la parole de Dieu a fait un travail en moi, je suis devenu vivant, c'est un miracle extraordinaire dans notre vie. Et puis voilà, il y a une opposition. Il y a une autre opposition terrible. Donc il y avait une direction de la part de Dieu. Ils ont eu une autorité, la puissance, et puis l'opposition se présente, parce que la parole de Dieu est annoncée. Ils ont rencontré donc qui? Un magicien ou un sorcier. Un sorcier. Faux prophète, qui était faux prophète. Juif, nommé, voilà. Voilà l'opposition. Et en même temps, il y avait un homme, là. Donc là, l'expression, c'est proconsul, c'est ça ? Proconsul, vous voyez aujourd'hui un député. Un député qui voulait rencontrer Barnabas et Paul parce qu'il a entendu que des choses qui se passaient, puis son cœur battait. Et une fois de plus, il fallait la parole de Dieu. Il fallait le Nouveau Testament, Gédéon, là. Et puis il rencontre cet homme. Cet homme, qui était député, écoutait la parole de Dieu, il a cru. Et l'opposition, c'était quoi ? Ben voilà les faux prophètes, voilà les sorciers, magiciens. Ils faisaient tout pour détourner cet homme de Dieu. C'est clair ? Ils faisaient tout pour détourner cet homme de Dieu. Attention ! Cet homme avait une puissance, mais une puissance mauvaise. Un sorcier, c'est quoi ? Derrière tout ça, il y a une spiritualité. Il y a des puissances, il y a des forteresses. Et puis voilà, il y a deux puissances. Il y a Dieu, mais il y a aussi Satan qui se manifeste par des hommes et des femmes. Alors imaginez-vous si les apôtres, enfin deux personnes, deux hommes de Dieu, n'avaient pas quelque chose de surnaturel, n'avaient pas une puissance, n'avaient pas le Saint-Esprit. Ben, ce sorcier, il aurait certainement gagné la bataille. Mais vous avez compris, à un moment, quand Paul a compris que c'était un sorcier, voilà, puis c'est un homme qui voulait détruire ce que Dieu est en train de construire. Comment discerner les biens et le mal? Comment bien discerner les puissances mauvaises et les puissances bonnes? Ce que l'ennemi fait tout pour détruire ce que... Il fait tout, il essaye de détruire ce que Dieu est en train de construire par toi et moi, par l'Église. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de détruire, démolir, c'est que ça ne vient pas de Dieu, mais c'est lui qui est de Dieu, il fait tout pour construire. Jésus est venu pour construire son Église. Et Jésus construit son Église avec toi, avec moi, avec les hommes d'affaires, avec les Gédéons, avec d'autres organisations. Voilà, il construit son Église. Amen. Et puis voilà, les sorciers, les magiciens, cette opposition-là est là aussi pour nous empêcher, pour nous arrêter. Et puis il aurait pu détruire la foi chez le député qui a entendu l'évangile et qui s'est converti. Alors, aujourd'hui, nous, l'Église actuelle, nous avons besoin de vivre les surnaturels tout à fait naturellement. Souvent, nous nous retrouvons devant les oppositions. Mais attention, Satan, enfin l'ennemi, peut aussi se servir de nos paroles quelquefois, nos raisonnements, nos interprétations. Jésus s'est trouvé avec les disciples et il dit, vous savez, il faut que j'aille à Jérusalem. Très bien. Vous savez, je vais aller là-bas, puis je vais devoir mourir, et je vais me retrouver sur la croix. Je vais payer à prix pour le monde entier. Et Pierre, il entend ça. Jésus, mais quoi? Toi, tu vas mourir, toi qui fais les miracles, toi, tu es puissant, toi qui, il n'y a rien qui te résiste, tu fais un mot, et puis les choses bougent, il y a des choses qui se passent. Quoi, toi? Mais toi, tu ne vas pas quand même aller à Jérusalem pour mourir. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, c'est le cœur, c'est le sentiment, c'est l'homme qui parle. D'accord? Ben, j'aurais peut-être dit la même chose. Je ne critique pas du tout Pierre. Hein? C'est notre ami. Hein? J'aurais dit peut-être la même chose. Et Jésus s'est retourné vers lui. Et vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il lui a dit? Arrière de moi. Comment? Arrière de moi, qui? C'est vous qui avez dit. Arrière de moi, Satan. Ouh, est-ce que Pierre était Satan? Non. C'était un bon gars comme toi et moi. Il aimait Jésus. Il voulait le préserver. Mais c'était quoi? C'était son sentiment personnel. Le raisonnement. Il était comme un vrai français cartésien. T'as déjà vu des français cartésiens? Ah, qu'est-ce qu'ils sont cartésiens? Heureusement qu'on est européens, nous, donc. Arrière de moi, Satan. C'était les raisonnements, la pensée humaine. Voilà, c'est ce que je pense. Mais il n'y avait pas Dieu dans tout ça. La volonté de Dieu, c'était quoi? La volonté de Dieu, c'est que Jésus aille là-bas pour mourir et nous racheter. Et diable faisait tout pour faire un barrage. Il voulait se servir même des paroles de Pierre. Ben voilà, ça se passe bien entre vous. Ce raisonnement, cette pensée humaine, voilà, arrête-le. Et puis regardez, après, on aurait pu avoir beaucoup de dégâts. Mais la volonté de Dieu, c'était que Jésus puisse donner sa vie pour le monde entier. Amen, pour le monde entier. Et c'est lui qui construit son Église. Donc vous voyez, l'ennemi fait tout pour détruire ce que Dieu est en train de construire. Dieu nous a choisis pour construire des exploits, des bonnes choses, construire l'Église vivante, puissante, et il y a des choses qui se passent. Alors, pour vous prouver que Dieu est toujours le même, que Dieu nous exauce, que Dieu agit, que Dieu est puissant, j'ai demandé juste à quelqu'un qui nous témoigne quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans sa vie. Marie-France, on n'a rien dit pendant un mois parce qu'on attendait. Et hier, on s'est vu. Viens à côté de ta femme, même si tu ne voulais pas parler, pour dire j'appuie ma femme. Je digère. Voilà, il est en train de digérer ce que Dieu est en train de faire. Merci. Alors si tu t'arrêtes quelque part, je te pose une question, on est là entre nous, hein, Marie-France.
Oui. Bonjour à tous. Si je veux parler un petit peu ce matin, c'est simplement pour glorifier Dieu, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. Donc je m'appelle Marie-France Petit, donc je suis la femme de Jean-Marc et nous sommes les heureux parents de Jérôme, Damien, Nathalie et Pierre-Élie. Donc, pour nous présenter peut-être, enfin, moi je vais peut-être juste vous dire comment je suis venue au Seigneur pour, avant de vous situer un peu. Je suis arrivée pour la première fois dans une église évangélique lors d'un mariage. J'ai été invitée et donc c'était la première fois pour moi que je rentrais dans une église évangélique. Et j'ai vraiment été frappée par l'amour des gens. C'est vrai que c'était un mariage, donc c'était la joie. Mais il y a vraiment des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, tu sais, on est tous réjouis là, mais il y a vraiment une joie que Dieu ne peut que donner. Et c'est seulement Dieu qui peut donner cette joie. Et si tu veux, on t'invite à venir au groupe de jeunes samedi prochain. Et donc, j'ai eu la joie de retrouver ces jeunes. Et au cours donc, de suivantes réunions, j'ai vraiment rencontré mon Sauveur. Et c'est vrai que c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Jésus et qu'il est entré dans ma vie. Et j'ai vraiment commencé une nouvelle vie avec lui. C'était la première bénédiction. Ensuite, j'ai eu une autre bénédiction, c'est que dans cette église, au groupe de jeunes, il y avait un charmant jeune homme qui s'appelle Jean-Marc. Presque le même jour, je l'ai vu, oui. Mais on a attendu un peu quand même. Donc, la deuxième bénédiction, c'est que vraiment, Dieu a béni notre foyer. Nous sommes donc mariés, nous avons demandé à Dieu la bénédiction. Et le texte de notre mariage, c'était Deutéronome 26, verset 18. « Tu seras un peuple qui lui appartiendra. » Et c'est vrai que sur le coup, on a lu ce texte, on a dit « bon, ben voilà, c'est merveilleux », mais on n'a pas vraiment percuté à l'époque de cet immense bonheur qui allait nous arriver. Donc nous avons eu la chance d'avoir 4 enfants, 4 beaux enfants merveilleux. C'était vraiment une bénédiction et une joie pour nous. Nous avons continué notre cheminement à l'église. Et puis, ce qui arrive parfois, c'est qu'on fait attention aux hommes plus qu'à Dieu. Et donc, vous savez très bien que l'Église n'est pas parfaite puisqu'elle est composée de gens comme nous. Et donc, j'ai été déçue. J'ai été déçue par des critiques, par des désaccords. Et donc, je me suis découragée. Et par la même occasion, j'ai un peu encouragé mon mari à me suivre aussi. Donc, on s'est découragé et puis on s'est dit, de toute façon, enfin, moi je me suis dit, je ne peux pas parler pour mon mari, mais moi je me suis dit, de toute façon, j'ai le Seigneur dans ma vie, je vais tenir sans Église. Et puis en fait, vous devinez ce qui s'est passé, ben, c'est faux, on ne peut pas tenir sans Église. Pour ça que je voulais juste en parler ce matin, parce que parfois on a l'impression que notre Église n'est pas parfaite, on a des désaccords, on se dit on va quitter l'Église, de toute façon on a Dieu, on est fort. C'est vrai qu'on a Dieu, on est fort, mais on a besoin des frères et sœurs. On a besoin vraiment de cet amour des frères et sœurs, qu'on doit prier les uns pour les autres. On a besoin des exhortations le matin, parce qu'il faut toujours se remettre en question le dimanche matin. On est là pour le Seigneur, c'est vrai. On est là pour le louer, c'est la première chose. Mais on est là aussi pour écouter les exhortations, parce que Dieu nous parle et nous remet dans le droit chemin, parce que c'est difficile de marcher sur le droit chemin. La preuve, c'est que nous, on s'en est éloignés. Heureusement, Dieu est bon. Donc Dieu a continué. Je sais qu'il y avait des gens qui priaient pour nous, et la prière a vraiment un pouvoir. Et donc Dieu nous a exaucés, et la première qui est revenue à l'église, c'était Nathalie. Elle est venue à la maison en nous disant un jour, je veux connaître Dieu, tu m'as déjà parlé de Dieu il y a plus longtemps, mais moi je veux vraiment le connaître. Alors comme elle était jeune à l'époque, elle avait 12 ans, donc je l'ai accompagnée parce que je voulais quand même écouter l'enseignement qu'on allait apporter à ma fille. Et donc c'est par ce biais-là que nous avons cherché une église et que nous nous sommes rapprochés, donc Nathalie et moi. Donc nous étions 2. Ensuite, Dieu a vraiment touché le cœur de Jérôme, notre fils aîné, dans le cadre de son travail. Nous, on priait simplement, Nathalie et moi. Et on priait pour toute notre famille. Et Jérôme a été touché dans le cadre de son travail. Un jour, il est amené et il a rencontré quelqu'un qui lui a dit « Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin, mais je veux te dire que Jésus t'aime. » Et donc, Jérôme a rencontré le Seigneur à ce moment-là. Il m'a appelé, il m'a dit « Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, maman ? C'est formidable, j'ai rencontré le Seigneur. » Alors là, vraiment, alors qu'on n'insistait pas, on ne disait rien, on ne faisait que prier pour eux. Ensuite, il y a eu Pierre-Élie. Pierre-Élie qui en venant ici à l'église lors de la présentation de Constance a rencontré aussi le Seigneur, alors qu'on n'insistait pas, parce que je crois qu'il ne faut pas insister, il faut juste prier. Et c'est pour ça que je vous dis que le titre de notre témoignage pourrait vraiment dire la puissance de la prière. Damien a suivi pour notre plus grande joie. Damien a aussi donné sa vie au Seigneur. Et c'est vrai que si on parle ce matin, c'est parce que ces quelques dernières années ont été vraiment riches en bénédictions. Et la toute dernière bénédiction que j'ai expérimentée moi-même, c'est depuis de nombreuses années, j'avais des problèmes nerveux, j'avais des problèmes de santé, où j'avais des moments très, très joyeux et des moments de déprime terribles. Je sais que mon mari en a beaucoup souffert, mes enfants sûrement aussi, je leur demande pardon encore aujourd'hui. Mais je voudrais simplement dire que je me soignais, Je suis donc allée voir un psychiatre parce qu'à l'époque, le médecin m'a orientée vers un psychiatre et il m'a donné des antidépresseurs parce que les docteurs ne savent pas soigner ce genre de maladie nerveuse. Et donc, je me suis bourrée de médicaments et j'étais très fatiguée. J'arrivais même plus à avoir d'émotions parce qu'en fait, on est abasourdi sous ces médicaments. Je n'avais plus d'énergie. Et donc, je me sentais vraiment comme une femme très âgée alors que j'ai 53 ans. Et vraiment, donc c'était très pénible parce que je ne savais plus marcher longtemps. Enfin bref, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, il y a un mois, on m'a proposé de prier pour moi et mes enfants avaient la foi. On dit, oui maman, on est tous d'accord, on va prier avec toi. Dieu peut faire quelque chose. Alors j'ai dit oui, d'accord, j'accepte la prière. Donc on a prié avec les frères et puis j'ai senti tout de suite une joie immense dans mon cœur. Vraiment comme une délivrance, comme un poids qui me quittait. J'avais cette fatigue qui était sur moi et j'ai vraiment senti que Jésus l'enlevait par son esprit vivant parce qu'à la croix il est mort pour nos maladies et son sang a coulé pour me guérir. Alors j'ai vraiment pris la victoire. J'ai vraiment senti que Jésus me libérait, me guérissait. Et donc avec Antoine, il a dit on va attendre parce que c'est vrai que moi j'avais envie de crier tout de suite, de dire oui je suis guérie, je suis délivrée, c'est formidable. Puis Antoine il a dit on va attendre un peu. Et là ça fait un mois maintenant et on en a reparlé. Et je peux dire que j'ai vraiment arrêté mes médicaments tout de suite, alors que s'il y en a qui connaissent dans la salle, on ne doit pas arrêter ces médicaments-là. On ne peut pas normalement arrêter tout de suite. Mais moi je savais que je devais arrêter parce que Jésus m'avait complètement guérie. Et quand il guérit, il restaure les cellules, il restaure tout. Donc j'ai arrêté donc les médicaments, j'ai pris la victoire de Jésus. Et je peux vous dire qu'il y a encore la semaine dernière, on est allé se promener mon mari et moi parce qu'il fait beau dans le sud encore. On est allé se promener et j'ai pu marcher. Mon mari me dit, tu veux pas qu'on s'assoie sur un banc? Je dis, non, ça va très bien. Et donc, on a vraiment pu passer des journées formidables et je sais que Jésus m'a guéri et je voudrais lui rendre toute la gloire.
Alors Jean-Marc, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu reconnais que...
Je n'ai pas la locution de ma femme. Alors
tu arrives, elle arrive et puis elle te dit, voilà, je suis guéri, j'ai arrêté les médicaments. Voilà.
Maintenant, elle a 25 ans.
C'était un choc pour toi.
Hein? Oui, tout à fait.
Dis-nous deux, trois mots.
Je ne sais pas quoi dire, moi.
Allez.
Bah, rien, je suis content. Merci Seigneur de ce miracle, quoi que tout va bien.
Voilà, donc on va continuer. Il y a d'autres victoires. Et c'est formidable. Hein?
Voilà.
Oui. Donc là, depuis un mois, t'as pas pris, c'est ça?
Non,
vous avez entendu, hein? C'est remarquable, ça, hein?
Ouais.
Formidable. Et il y avait une puissance de Dieu qui est descendue, la puissance de Dieu, voilà. Elle était renouvelée quand on a prié ensemble, renouvelée à quelque chose de surnaturel, ouais, qui a brisé tous ces médicaments-là. Si vous prenez les médicaments, non, faites pas ça. Si vous n'avez pas une conviction, il faut Dieu. Il faut Dieu, voilà, c'est
absolument
ça, hein? C'était vraiment fort. Hein.
Ah oui, Dieu donne la conviction, parce que c'est vrai que mon mari aussi avait un peu de doute, c'est vrai. Et en plus, il était loin, lui. Il était encore en Narbonne. Moi, j'étais seule ici, il avait un peu peur. Mais j'avais la conviction, Dieu donne la conviction. J'étais persuadée, je savais que je devais arrêter et prendre la victoire pour la gloire de Dieu.
Voilà, donc on prie avec Marie-France au premier étage. Et puis Nathalie, et puis Damien et Pierre qui priaient au bas. Et puis ensuite, on a vu ce qui s'est passé. On s'est retrouvés. Et puis Nathalie, elle dit, maman, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec les médicaments? Et puis maman, elle répond à sa fille, ben, j'arrête, c'est fini. Ouais. Moi, je me suis dit, Seigneur, il faut que ça marche. j'ai rien dit. Mais j'ai prié, on a prié. Et puis après, j'ai donné un coup de fil. J'avais des nouvelles par les enfants, là. Mais je voulais les voir. Et puis là, on s'est rencontrés. C'est formidable.
Oui.
Alors si, est-ce que vous acceptez que vos enfants viennent ici, qu'on puisse prier pour votre famille, pour toute la famille, que la bénédiction coule plus loin.
Pour prendre
le beau-fils
avec. Ah oui,
le beau-fils
aussi, là, Emmanuel vient.
Bon, le beau-fils, tu entends?
J'ai mis le maquin pour l'instant.
Bon, et puis, les fiancés, là, c'est sérieux déjà, non?
Oui, bien sûr, allez, les fiancés.
Bon, c'est pas grave.
Voilà, on va vraiment prier pour vous, tous ceux qui viennent lundi soir dans une réunion de responsables. Venez ici, on va les entourer. On va prier pour consolider la victoire. Et c'est ce que nous avons dit à vos parents, c'est qu'on va trouver un moment que toute la famille, parce qu'il y a encore un frère qui n'est pas là ce matin, nous voulons vraiment vous rencontrer ensemble et consolider cette victoire. Parce que vous avez entendu ce matin, l'autre, il fait tout pour... Il va revenir par tous les moyens pour voler ce que Dieu nous a donné. Je connais ça. Mais là, ça fait déjà un mois, on a gardé le silence. Oui. Et là, c'est public.
Oui.
Là, Satan, il a reculé. Il n'a pas trouvé une faille, une porte pour revenir. Alors, est-ce que ça vous encourage, ce que Dieu fait ? Voilà, tout ce que vous avez entendu, c'est 10%, mais ce qu'ils ont vécu dans la famille, puis dans le couple. Voilà, essayez de lire entre les mots. Hein. Il y avait des combats, des difficultés, etc. Aujourd'hui, on est heureux. Hein, Jean-Marc ? Oh là là, moi je suis heureux pour Jean-Marc. Hein. Oh là là.
Oh là là. Toute cette troupe, c'est beau.
Oh là là, c'est fort tout ça. Voilà, on vous entoure comme ça. Venez un peu là. Et puis on va vraiment... On les entoure tous ensemble, là. Voilà, ensemble, hein. Touchez, on vous touche, là. Seigneur, nous te prions, au nom de Jésus, que tu puisses consolider cette victoire, au nom de Jésus.
Alors,
si vous pouvez vous lever, tendez vos mains, aidez-nous, hein, parce que je sens que... On a besoin de vous, hein, de l'Église. Tendez vos mains juste.
Merci, Jésus.
Seigneur, que le Saint-Esprit soit sur cette famille.
Amen.
Seigneur, il y a un mois, quand j'écoutais Marie-France, je me suis dit, Seigneur, j'avais les larmes aux yeux, Seigneur, mon cœur pleurait. Et je me suis dit, Seigneur, si tu nous accordes un miracle, nous te serons vraiment reconnaissants.
Amen.
Et nous allons prier en famille, nous allons prophétiser sur la famille, et nous allons penser à la famille éloignée, aux cousins, les petits cousins, les tantes, les oncles, parce que voilà, le noyau est déjà important. Et nous te prions, je te prie, Père, au nom de Jésus, avec toute l'Église, de consolider, que cette victoire soit consolidée, Seigneur, fortifiée, que Satan ne trouve plus la place, Seigneur, pour nous décourager. Nous avons la victoire, nous avons la délivrance, nous avons la guérison, nous avons la réconciliation spirituelle entre les parents et les enfants. Quelle joie, Seigneur, quelle bénédiction. Merci, Dieu de gloire. Alléluia. Alors, je reçois vraiment cette parole de la part de Dieu pour vous, que vous devez tout faire pour garder l'unité. L'ennemi va essayer de semer la panique quelquefois. Regardez l'essentiel. Quand vous pensez à l'unité, regardez à la personne de Jésus. C'est Jésus qui nous unit. N'écoutez pas les discours, toutes sortes de philosophies qui voyagent, il y a des courants. Mais jetez toujours votre regard, fixez votre regard sur Jésus. Jean-Marc, pour toi, j'ai vraiment reçu cette parole que rien n'est fini pour toi. Tu avais des inspirations, tu avais le feu dans ton cœur quand tu étais jeune, et tout ça s'éteignait pendant un certain temps. Et puis là, je te vois, c'est tellement clair dans mon esprit, je te vois que tu es entouré de pas mal de personnes, des gens qui... Et tu es en train de parler, tu es en train de partager, il y a une onction, il y a quelque chose surnaturel qui passe de toi envers d'autres personnes. Parce que tu avais ce désir vivre il y a déjà 20 ans ou 30 ans, enfin quand tu étais jeune. Voilà, quand vous avez vécu un peu, un petit réveil à Roubaix, tout ça, c'est pas fini ensemble. Maintenant, en couple, parce que tu as retrouvé ta femme qui pourra promener avec toi, qui pourra aller faire des courses avec toi, vous allez pouvoir vous réjouir ensemble, vous allez aller manger au resto une fois de temps en temps ensemble, c'est ce qui s'est peut-être, enfin je pense que c'était pas tout à fait ça, parce qu'il y avait la maladie, il y avait tous ces combats, toutes ces difficultés. Alors Dieu a il a un plan pour vous, c'est pour ça que Dieu a agi de cette façon-là. Alors c'est tellement fort. Voilà, si c'était juste un mot pour vous dire l'unité. Gardez ce mot, l'unité. Soyez unis en famille. Soyez unis ensemble. Acceptez-vous tel que vous êtes. Parce que Dieu va se servir de vous pour des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Qui veut prier encore? Moi, pour vous.
Moi, je voudrais... j'ai reçu la même parole qu'Antoine. En fait, pendant qu'on priait, j'ai reçu que c'était pas fini. Et que vous allez être surpris.
Merci.
Vous tous, la famille, en individuel, vous allez être surpris de voir comment Dieu va diriger les choses. Parce qu'on pourrait très bien se dire, voilà, c'est une famille qui a été bénie ces derniers mois. On a vu pas mal de choses, des guérisons. Il y a des fiancés qui sont arrivés, etc. Il y a des bénédictions qui sont là. Mais c'est pas fini. Et vous allez être surpris. Et ça va dans le sens de ce qu'a dit Antoine. C'est pas fini. Vous allez être scotché de voir comment Jésus déjà vous a ramené à lui. Mais qu'il va diriger. Et que chaque pas que vous allez faire va être dirigé par lui. Donc, accrochez-vous à ça, mais il y a aussi une part d'obéissance. Il y a une grosse part d'obéissance, mais Jésus va pourvoir derrière.
Oui, Seigneur.
Moi, je pensais aussi que Dieu est capable de restaurer vos années perdues et de vous les rendre, que vous n'avez rien perdu. Que si vous pensez que vous avez eu des années plus difficiles, Dieu peut vous rendre ces années et restaurer, vous donner tout ce que vous comprenez, restaurer les années perdues. Ne pas se dire je suis un petit peu plus avancée en âge et j'ai perdu du temps, Dieu peut restaurer toutes les années.
Et Seigneur, merci parce que les choses du passé sont passées, Seigneur Jésus. Et que maintenant on peut regarder devant avec toi, Seigneur.
Oui, des choses nouvelles.
Des choses nouvelles, Seigneur, dans la vie de la famille, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Faire aussi que nos partages soient aussi plus intenses, Seigneur. Et qu'ils soient aussi conduits par toi, Seigneur Jésus.
Oui, Seigneur.
Seigneur, je te remercie pour mes beaux-frères qui sont venus à toi, Seigneur, pour ma femme qui évolue, Seigneur. Je te remercie pour mes beaux-parents qui ont évolué aussi, Seigneur, et qui, Seigneur, tu leur donnes, Seigneur, la puissance, Seigneur. Viens bénir mon beau-père, Seigneur. Je sais que c'est quelqu'un qui a une grande connaissance pour toi, Seigneur, qui a un cœur pour toi au fond depuis le début, Seigneur Jésus. Vraiment lui donner ton onction, Seigneur, qui est l'onction.
Oui, oui, Seigneur, l'onction.
Et sur Marie-France, Seigneur, sur le couple de mes beaux-parents, Seigneur, vraiment, que vraiment il y a ton onction qui descend, Seigneur, et qu'ils puissent continuer sur le chemin, Seigneur, qu'ils ont pris.
Oui, Seigneur. Oui, Jésus.
Oui, Seigneur, moi, je veux vraiment te rendre toute la gloire, Seigneur, parce que Seigneur, te choisir le Dieu de gloire, c'est choisir l'absolu. Parce que Seigneur, tu es l'absolu. Tu es l'absolu dans ton amour. Tu es l'absolu dans ta paix parce que tu es shalom. Tu es le Dieu du shalom. Tu es le Dieu de la paix. C'est cette paix que tu apportes dans cette famille, Seigneur. Tu es le Dieu surnaturel. C'est toi, Seigneur, qui conduis toutes choses. Et nous allons vraiment nous attendre encore à ton amour absolu que tu poses sur cette famille, Seigneur. Tu vas vraiment te révéler. Et vraiment, cette victoire, elle est pour toi. Elle est vraiment pour ta seule gloire, Seigneur. Elle est pour ta seule gloire. Tu es le Dieu de l'absolu. Oui. Et je proclame ton amour absolu dans cette famille, Seigneur. Dans ton nom tout-puissant, parce que tu es l'El Shaddai, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es celui qui va pourvoir dans cette famille, Seigneur. Alors à toi, ouais. Toute la gloire, Père. Dans le nom puissant,
merci, Jésus.
Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Alléluia. Merci Jésus. Alors Sandy, est-ce que tu peux prier aussi? Il y a les jeunes, vous vous occupez des jeunes, hein? La bénédiction de Dieu soit.
Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait dans cette famille. Seigneur, merci que tes promesses, on a beaucoup entendu récemment. Des bénédictions qui passent de génération en génération. Et Seigneur, je te remercie pour la deuxième génération et aussi la troisième génération qu'on oui, voit Seigneur. Dans cette famille-là avec Constance et Capucine. Seigneur, merci que tes bénédictions ne sont pas terminées pour cette famille.
Oui.
Que dans les choses qui vont évoluer à l'avenir, que tu vas te montrer fidèle, que tu vas te montrer juste, que tu vas te montrer le Dieu qui bénit les générations. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu as remis en place. Et Seigneur, on tient fermement à tes promesses.
Oh, Jésus.
Fermement à tes promesses.
Alléluia. Oui.
Parce que nous te connaissons et nous savons que tu es un Dieu qui garde tes promesses. Tu es fidèle oui. à tes promesses. Donc Seigneur, merci.
Merci.
Pour tout ce que l'avenir peut tenir pour ces jeunes-là.
Oui, Seigneur.
Mais surtout, Seigneur, je pense surtout à Capucine et à Constance et oui. aux autres oui, petits-enfants qui vont
béni
arriver au
premier Dieu.
Seigneur, c'est pas fini. C'est pas fini. On parle pas de dynastie dans le sens du
oui,
monde.
Jésus.
Mais Seigneur, toi qui fais grandir ton royaume.
Oui, Seigneur.
Merci, Seigneur.
Merci. Oui, Jésus. Alors, ensemble, on va juste apporter action des grâces. Est-ce que vous voulez dire à Dieu merci pour ce que tu fais?
Merci, Jésus.
Alléluia. Alors, on reste encore là, puis levons les mains vers les...